Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans cette lorgnette spéciale consacrée aux élections municipales de Blois. Les élections municipales en haut national auront lieu les 15 et 22 mars et dans ce cadre, Studio ZEF participe à son échelle à recevoir les candidats qui se présentent donc à la mandature municipale. Le candidat d'aujourd'hui se nomme Gilles Dasvira, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc, pour cette conversation. Je suis accompagné comme pour toutes les autres émissions d'une association qui œuvre sur le Blaisois dans le champ de l'éducation populaire. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur cette émission. Est-ce que tu peux présenter l'association que tu représentes ?
Eh bien oui, je peux essayer. Alors moi je représente l'association La TESI, pour terrain d'expérimentation, de création et d'initiative. Alors La TESI, ça s'est créé en 2023 sur la base d'un dialogue, d'un vieux dialogue qu'on a voulu renouer entre pédagogie et psychothérapie institutionnelle. Et en se posant une question assez simple, c'était qu'est-ce qui se passe au-delà des murs des cliniques, qu'est-ce qui se passe quand on sort des cliniques, ou penser dans l'autre sens, comment on fait sortir la psychiatrie, rentrer la psychiatrie en ville, et ou alors, autrement dit, comment on fait du soin une production sociale et pas uniquement une question médicale. Et donc ça s'est formé avec des soignants et des soignés de la clinique de Sommerie, mais pas que. Et aujourd'hui, on travaille un peu à ces questions de l'inclusivité des personnes avec des troubles psy, des questions de la marginalisation, de l'accessibilité à la culture, aux soins, au travail. Et nous, notre question, c'est comment on redevient acteur de son inclusion et comment on travaille les institutions pour qu'elles deviennent plus inclusives.
Gildas Vira, j'imagine que ces notions, elles vous parlent, vu que vous êtes un acteur aussi du monde de la santé.
Oui, ça me parle plus même pour le coup, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'ai été directeur d'une structure d'addiction, et donc on travaillait sur une prise en charge médico-psychosociale plus largement, avec des CARUDE, les centres de soins, et donc j'ai eu à aller de temps en temps à Sommerie justement pour visiter, pour voir leur méthode aussi. Et donc oui, on est dans un milieu qui nous parle. Et donc maintenant, je suis dans la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Et donc on reste avec l'ensemble de ces acteurs très en lien pour le coup.
On va donc cadrer cette émission autour des champs qui nous occupent, nous, ici à Studio ZEF et les autres associations socioculturelles du Blaisois, donc la culture, le social et le soutien au monde associatif, donc ce grand champ de l'éducation populaire. Est-ce que vous voulez en dire un mot avant qu'on commence la conversation?
Allez-y. Oui, c'est un champ, j'ai envie de dire, presque indispensable, en fait. Pour ceux qui suivent mon parcours, parce que vous nous laissez le temps, donc moi j'apprécie.
Allez-y,
parce que du coup j'ai fait d'autres émissions où on avait 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est pas forcément
l'endroit. Ils font un travail complémentaire au nôtre.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se poser un petit peu, et puis aussi que je puisse faire connaissance, ou que les personnes qui nous écoutent puissent faire connaissance réellement avec moi. J'ai été dans le deuxième mandat de Marc Gricourt, j'ai été maire adjoint à la vie associative, aux associations et maisons de quartier. Donc la plupart des maisons de quartier et centres sociaux de Blois, j'y étais pleinement impliqué pendant 6 années dans l'accompagnement. Avec tout ce qui est FANGEP, ceux qui sont dans le milieu me comprendront.
Un dispositif d'accompagnement aux associations.
Voilà. Et donc l'idée de pouvoir œuvrer dans l'éducation populaire, pour moi, c'est presque une évidence, puisque j'ai été... j'ai baigné dans ça toute mon enfance et dans mon parcours. Et c'est une délégation que j'avais demandée. Ce n'est pas des délégations subies comme certains où on vous dit « vous allez être sur tel et tel ». Non, non, j'avais demandé cette délégation pour pouvoir travailler, accompagner et être présent dans un champ qui m'est cher. Donc pour le coup, voilà, je suis heureux de pouvoir en parler simplement.
Eh bien, on va plonger dans le sujet avec cette question primordiale qui, en tout cas, qu'on considère nous ici et ASEF et les autres associations qui ont pu partager les plateaux autour des municipales, qui est le soutien au monde associatif. On voit dans un contexte budgétaire extrêmement contraint que le monde associatif a tiré la sonnette d'alarme à l'automne dernier. Comment une municipalité, dans ce contexte budgétaire contraint peut assurer le bon fonctionnement des associations ?
J'estime que tout est une question de volonté politique à un moment donné. C'est sûr qu'on est contraint budgétairement, mais il y a une question de choix et de volonté politique. Et donc je reviens un petit peu à l'histoire. Lorsque j'ai pris en charge, entre guillemets, la vie associative au niveau de Blois, j'ai demandé à Marc Gricourt de ne jamais baisser cette enveloppe et de me laisser piloter cette enveloppe. Donc l'idée globale pour moi, elle est simple aujourd'hui, quoi. Je vis moi-même dans une structure qui connaît la FRAPS, entre autres, qui connaît de fortes baisses de financement de la part de l'État, là, pour le coup, mais aussi sur certains projets qui ne vont plus perdurer. Il y a des baisses aussi au niveau des collectivités. Donc je ne peux pas en même temps être triste de ça et voir vivre en même temps la perte de lien social, de politique publique en baisse, de mal-être, parce qu'on travaille quand même pour le bien-être dans le monde associatif, hein, de chacun. On va parler de la question culturelle, etc. Et ça n'a pas de prix, tout ça. Et non seulement ça n'a pas de prix, mais on va ne pas permettre à ces personnes de pouvoir travailler, de rendre service à des personnes. Très clairement. Donc en fait, on est dans du non-sens, dans une société où on peut se questionner sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc pour moi, c'est une question véritablement de choix politique. Et si demain j'arrive en responsabilité, la réponse, elle est très simple. Je ne toucherai pas à l'enveloppe de la vie associative. C'est pas possible aujourd'hui. Donc je resterai dans une continuité. À nous d'aller chercher des ponts de financement complémentaires, là où il y en a, parce qu'il y a des endroits où on peut chercher de l'argent supplémentaire sur différents projets. Et une municipalité a la possibilité de faire appel à des financements européens, à des financements régionaux, à des financements, etc. Chose que les associations n'ont pas forcément la capacité de faire. Je dis souvent, parce que je l'ai vécu aussi en interne ces dernières années, lorsque vous baissez les financements d'une petite asso, je dis une petite asso qui toucherait, allez, je dis n'importe quoi, mais pas complètement. Lorsque la petite asso a 5 000 euros et que vous lui enlevez 2-3 000 euros, vous l'empêchez de pouvoir fonctionner. Par contre, lorsqu'une grosse asso a 250 000 euros, si vous lui enlevez 5 000 euros, elle pourra peut-être aller trouver le reliquat. Vous voyez, c'est pas la même proportion. Or, dans les arbitrages qu'on a eu à faire ces dernières années, malheureusement, on a mis en difficulté beaucoup d'associations. Je dis « on » parce que je fais partie de la municipalité. Donc, que je vote pour ou contre, le résultat est le même. À un moment donné, le résultat pour ces petites assos, ça a été des difficultés. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours défendu qu'il faut absolument maintenir les subventions associatives et ne pas toucher en proportion aux assos qui ont les plus faibles subventions, en fait. Parce que finalement, c'est eux qui font un travail parfois gigantesque, avec très peu de moyens, avec beaucoup de bénévoles parfois, qui sont sur le terrain. Et c'est eux qu'on met en plus en difficulté. Donc là, c'est pas possible dans ce monde où la pauvreté... Alors j'ai dit ce monde, mais regardez à Blois, quoi. À Blois, vous allez dans les quartiers nord, il y a plus de 50% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est juste pas possible dans cette ville-là. Je vous parle pas du chômage ou à Blois. Je veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais la vie sociale et culturelle fait partie des leviers forts qui permettent à pas mal de personnes de s'en sortir et à des jeunes, comme je l'ai été, de pouvoir quitter un milieu social où ils ont été et de pouvoir bénéficier d'un ascenseur social. Et ça, malheureusement, peu le mesurent parce qu'ils ne sont pas passés par là.
Pour que votre pensée soit claire, est-ce que dans une enveloppe budgétaire maintenue, c'est ce que vous avez dit, est-ce que des arbitrages auraient lieu pour favoriser, pour maintenir, on va dire, des besoins de petites associations et enlever à des plus grosses qui pourraient se permettre de voilà, d'enlever, on parle de petites sommes, hein, voilà, de 2000 euros
Mais oui, en fait. D'accord. Mais oui, oui, oui. Moi, une petite association, enfin, je vous ai donné les sommes, hein, mais c'est une réalité.
Oui, il y a des associations qui n'ont pas de salariés qui ont besoin de 5000 euros ou 6000 euros par an.
Par an, pour pouvoir fonctionner simplement. Sinon, ils ne fonctionnent pas. Donc, ça veut dire que si je leur enlève 2000 euros, quasi, ils ferment. C'est pas possible. Alors que l'asso qui a 200 000 euros, si je lui enlève 2000 euros, elle ne ferme pas. Et ces arbitrages-là, on a du mal à pouvoir les faire. Après, c'est, comme je dis, c'est toujours un choix de politique publique et à savoir comment est-ce qu'on arbitre à l'intérieur de cette enveloppe-là ? Il faut être pragmatique. Ce qui existait à mon époque et que j'ai mis en place, je dis à mon époque quand j'étais maire adjoint à la vie associative, ce sont des règles d'attribution des subventions. Donc il s'agissait de pouvoir faire attention au fonds de roulement de ces personnes, à l'activité et au public ciblé, à la taille de ces associations. Et tous ces critères-là nous permettaient de faire des arbitrages un peu plus concrets, plutôt que de dire « ben non, je prends là, je donne plutôt à telle association qui a plutôt mal géré et donc il faut renflouer », ou « je m'entends bien avec tel président d'asso et donc je vais l'aider, mettre en difficulté d'autres, etc. » Donc il y a quand même à être un peu pragmatique derrière ça.
Ce serait orienté vers quel type de public, quel type de structure, quel type de champ associatif, parce que le monde associatif, on dit le monde associatif,
large,
mais c'est extrêmement large.
On parle et autant de sport que de social que de culture.
Voilà, c'est ça. Enfin voilà, dans quel sens vont ces arbitrages finalement ?
Bah, ces arbitrages vont dans tous les champs en fait. Lorsqu'on parle de l'enveloppe de la vie associative, on est autour de 4,5 millions à 5 millions qu'on doit distribuer à peu près 200 associations. Sur le territoire. Il faut savoir qu'à Blois, on est entre 800 et 1000 associations, reconnues ou pas, mais il y en a 200 véritablement fonctionnelles qui demandent de l'aide au niveau de la municipalité. Donc sur ces 200 associations, la manière dont se faisait l'attribution jusque-là, c'était une grande réunion globale où chaque délégation arrive, donc la délégation de la santé avec les assos de la santé, la délégation, etc., arrive auprès du maire et dit bah, « moi, je privilégie tel, j'ai étudié les dossiers, tel autre, etc. » Et puis, au cabinet du maire, se fait l'arbitrage final où le maire fait un peu ce qu'il veut. Donc ça, pour moi, c'est un peu triste parce que ce qui m'a fait quitter la municipalité à un moment donné, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais pas la main et que, quels que soient mes arbitrages, tout se décidait de toute façon dans le cabinet du maire. Donc ça, c'est un peu compliqué après.
Sur le champ de l'associatif et de l'éducation populaire, donc, comment rendre plus visibles les associations, les structures qui pourraient avoir besoin de bénévoles, qui sont parfois en demande de bénévoles, de main forte, de main d'œuvre, à œuvrer justement, à donner du temps pour s'investir dans les associations, quelles qu'elles soient, évidemment, encore une fois, le sport, le social, la santé, la culture.
Il y a plusieurs niveaux, en fait. Hein. Pour l'expérience que j'ai vécue, il y a d'abord le temps qu'on peut prendre avec ces associations, ces différentes associations, pour avoir des temps par quartier. Donc c'est ce que je faisais quasiment tous les mois, avoir un temps où vous regroupez les associations sur une thématique donnée, donc là par exemple sur ce monde-là, et les interroger aussi sur leurs besoins.
Donc réunir les associations d'un même champ d'activité.
D'un même champ, ouais. Voilà. Okay. Leur demander quels sont leurs besoins et comment on peut travailler. Moi je suis comme je vous ai dit, je suis directeur général de la FRAPS, mais en fait je suis un coordonnateur global. Mmh. L'idée pour moi c'est pas de dire on fait comme ça. C'est de dire comment est-ce que vous voulez travailler, quels sont vos besoins et quelles sont vos idées pour qu'on puisse travailler mieux. Si vos idées, c'est de pouvoir faire un journal qui va vous permettre de vous mettre en avant et qu'on puisse le distribuer, si votre idée, c'est de faire apparaître vos difficultés ou vos besoins sur le Blois Mag, par exemple, de la ville, pourquoi ne pas le faire comme ça ? Si dans vos idées, il ressort qu'il faut un événementiel pour pouvoir mieux travailler, attirer des bénévoles, pourquoi ne pas y réfléchir ? Les trois sont possibles. Moi, j'ai connu à un moment donné l'agora des associations, qui me paraissait une belle idée. Ça aurait pu être l'agora des associations culturelles ou socio-éducatives ou de l'éducation populaire, après on trouve le nom qu'on veut, mais qui aurait pu drainer justement pas mal de monde et aider à pouvoir attirer...
En fait, cloisonner les champs pour attirer peut-être des gens qui seraient plus intéressés par s'investir dans la culture ou dans le social ou tout ça.
Ah, complètement. D'accord. Parce que quand vous faites la journée des associations...
Ouais. Bah, le forum de l'engagement ou la journée ou le forum du sport à la rentrée. Ouais.
Voilà, vous avez tout et rien. Mm-hmm. Mais si vous avez le forum du sport, on sait que c'est le monde sportif. Mm-hmm. Donc on voit bien le public qui est attiré et pourquoi ce public-là vient là. Donc si vous faites quelque chose sur un certain champ, appuyé par la municipalité, je trouve que là, il y a du sens pour le coup. Donc ce sont diverses idées qu'il faut explorer. Mais comme je le dis, pour moi, c'est jamais la ville a la bonne idée et la met en place. Nous, on n'est que des instruments du peuple, entre guillemets. La personne qui va être élue demain maire de Blois, c'est une personne qui est élue par je ne sais combien de milliers de Blaisois. Elle a évidemment de bonnes idées, elle a un joli programme, mais à la fin, c'est quand même des personnes qui l'ont élue qui sont un peu détenteurs de la participation. Donc l'idée pour moi, c'est toujours de dire « Ok, maintenant je suis là, voilà ce qu'il y a dans mon programme et qui était prévu ». Le programme, sincèrement, pour la plupart des candidats, quand vous regardez, j'ai regardé aussi ceux des autres, si vous dites culture, vous avez une page, deux pages maximum. Deux pages maximum pendant 6 ans pour travailler sur la culture, c'est minimaliste. Après, derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on bosse avec les différentes personnes de ce champ-là. C'est ça qui m'intéresse, en fait, derrière.
Je voudrais qu'on aille sur la question d'aller vers. Alors, aller vers la culture, aller vers les espaces qui nous permettent d'aller bien, le soin, etc. Comment on démocratise les accès aux structures existantes pour prolonger un petit peu la question de la visibilité. Maintenant, parlons de l'accès. Comment on favorise l'accès à toutes ces structures qui permettent aux gens d'aller découvrir de la culture, d'accéder à des structures de soins, etc. Comment tout ça pourrait s'organiser concrètement?
C'est une question très difficile, en fait, parce qu'il y a, il y a plein d'idées et en même temps, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Quand Thomas, si je peux me permettre, Thomas, monte une asso, donc avec des proches pour pouvoir travailler sur la question de l'orientation, c'est parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais il y a des choses aussi qui manquent. Moi, j'ai été directeur, donc je vous l'ai dit, de VRS Opelia, aujourd'hui ça s'appelle VRS Opelia, et de l'AMPA, l'Association Nationale de Prévention en Addictologie. À l'époque, on avait bien une possibilité d'orientation de personnes vers nos centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Mais lorsqu'on se promenait dans la cité, il y a très peu de gens qui connaissaient en fait qu'on existait. Et si n'eût été dû aller vers, parce qu'après il y a des structures d'aller vers qui existent et qui permettent d'orienter vers le soin, faut aller chercher l'info, en fait, pour le coup. Après, il y a des structures qui sont créées, mais vous en parlerez certainement mieux que moi, puisque votre structure, hein, on en parlait juste avant un petit peu, a été créée aussi pour favoriser ce lien sortie de l'hôpital, rencontre avec des personnes en difficulté, etc., vers d'autres structures. À mon époque, entre guillemets, pour parler de cette époque-là, on avait créé un annuaire qui permettait justement de pouvoir orienter des personnes vers... les thématiques pour le coup d'addiction, différents lieux d'accompagnement. À notre époque, les annuaires deviennent un peu obsolètes. On est plus en ligne, sur le net.
Les annuaires en ligne existent. Si voilà. Un site de catalogage, c'est tout à fait envisageable. Si vous voulez juste faire un annuaire en ligne, c'est possible.
C'est possible. Mais bon, on voit bien qu'on a dépassé ce champ-là. Ouais. Donc, avoir un site au niveau de la ville, donc là, je creuse avec vous, hein, c'est pas quelque chose qu'on a
dit.
Vous
êtes là pour ça.
Sur le site de la ville par thématique des possibilités d'orientation parce que les personnes du champ le savent ou l'idée de mettre en valeur certaines assos parce qu'il y a un vrai besoin sur le territoire me paraîtrait une idée aussi à creuser, mais il y en a certainement plein d'autres.
Est-ce que tu veux rebondir sur les questions d'accès? On en parlait en préparant
Oui, c'est vrai que c'est la grande mode des annuaires, des cartographies, des acteurs locaux. Donc on a des cartes qu'on n'arrive plus à lire. Mais nous, ce qu'on rencontre un peu comme sur ces questions d'accès, il y a une question très concrète. C'est notamment la mobilité interurbaine, qui est une vraie question pour des personnes qui n'habitent pas forcément Blois, mais Blois centralise un certain nombre d'activités. Et du coup, pour avoir accès à l'activité, à la culture, il faut pouvoir venir sur Blois. C'est déjà un prérequis. Et la deuxième chose qu'on voit en termes d'orientation, c'est que, par exemple, pour nous, avec des publics qui ont des parcours psychiatriques, c'est je vais à SOS Psy, qui est déjà surchargé. Et là, SOS Psy a peu de structures vers qui orienter.
Des solutions.
Ouais. Et parfois, des structures qui ne sont pas formées à accueillir ces publics-là. Et du coup, nous, ça pose la question de comment on accompagne les structures à accueillir des publics qui sont, par définition, difficilement accueillables. Et surtout, comment on diversifie un peu les structures d'accueil pour permettre une orientation un peu fine. Parce qu'en fait, aucune structure ne peut se revendiquer d'un accueil universel de toute personne et de tous les publics et surtout de toute la population. Donc, et puis chacun doit un peu trouver chaussure à son... Enfin voilà, c'est un peu cette question de... de la micro-orientation plutôt que...
D'un affinage.
Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Donc voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose, nous, et que je vous pose aussi, du coup.
Ouais. Du coup, j'ai plus ou moins répondu déjà un peu avant, donc on voit bien que c'est des vraies questions. Après, on ne va pas multiplier des associations qui seraient en difficulté eux-mêmes. Mais je sais que la chance qu'on a avec la loi 1901, c'est quand même la facilité de se monter en asso et que les bénévoles qui souhaitent accompagner, parce que justement il y a peu de lieux d'accompagnement, puissent être aidés par une municipalité. Le rôle de la municipalité sur ces créneaux-là, ça va être véritablement le rôle de lien, de soutien, et puis de coordination globale, j'ai envie de dire, parce que c'est pas sa mission première, mais d'avoir cette visibilité-là.
D'avoir la connaissance de son tissu pour mieux la structurer et la coordonner.
Oui, parce que vous allez avoir, en plus, au niveau de la municipalité, des agents qui travaillent sur ce créneau-là. En fait, vous avez toujours le maire adjoint, donc soit la vie associative, soit la culture, et derrière, vous allez avoir des équipes de la municipalité qui travaillent sur ce champ depuis plusieurs années et qui connaissent bien le tissu.
Donc on maintient aussi, évidemment, voilà. Ces services-là dans votre programme.
Sinon je suis obligé de les licencier, ils ne seront pas contents. Non, évidemment, quoi, évidemment. Et donc, véritablement, c'est en plus, on a des gens compétents quand même au niveau de la municipalité sur ces secteurs-là. Donc, c'est vraiment comment peut-être aller plus loin qu'on l'a fait aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un problème de modernisation également de nos services et des capacités d'orientation, donc de leur rôle, en fait, en termes de mission. Donc, quand il y a un vrai problème qui se pose, où on se dit qu'il y a une difficulté, comment est-ce qu'on reforme des salaires? C'est vrai qu'on forme beaucoup aujourd'hui, mais bon, faut se mettre au goût du jour, c'est jamais si simple que ça. Comment est-ce qu'on reprend un temps de formation pour pouvoir être vraiment au cœur des problématiques, parce que chaque époque a une problématique. Moi, il y a 10 ans, la santé mentale existait évidemment, et en plus j'étais dans le champ, mais on n'entendait pas beaucoup parler. Aujourd'hui, la santé mentale, on parle que de ça. Mmh. Priorité nationale, priorité, etc. Premier secours en santé mentale, c'est la formation qu'il faut faire aujourd'hui. Mais voilà, on ne vient pas de découvrir les problèmes de santé mentale quand même. Donc voilà, mais comment est-ce que les agents de la ville aussi se forment et pour leur permettre d'être au fait des sujets et de pouvoir mieux accompagner, quoi.
Pour revenir sur les questions de la mobilité, la mobilité concrète ou concrète, quoi. Voilà, peut-être qu'est-ce que vous aviez envisagé à ce niveau-là, et particulièrement, enfin, je pense que la mobilité interurbaine, c'est particulièrement, moi c'est un sujet auquel je suis sensible parce que j'ai travaillé en milieu rural ou périurbain, et que c'est souvent une question qui revient sur des publics fragilisés, qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas encore le permis, qui ne peuvent plus conduire, je pense aux personnes retraitées. Voilà, moi je sais que je fais des trajets régulièrement vers Vuisseau sur Cosson, j'ai abandonné l'idée du bus et j'ai pris mon vélo, quoi, parce que c'est beaucoup plus simple, mais il faut être en bonne forme. Donc voilà, c'est une vraie question.
Alors c'est une question qui dépasse le simple champ de la ville de Blois, c'est une question d'agglomération, mais Blois étant la plus grande représentante de d'Aglopolis, je pense la question se pose pour un candidat à la mairie de Blois.
Complètement, et pas que, moi je me cache pas derrière l'aglo comme certains candidats, hein. Pour moi, lorsqu'on est élu à la ville de Blois, on traite les problèmes du Blésois et les problèmes de l'aglo plus largement, puisque le maire de Blois et la plupart de ses élus vont siéger à l'aglo, soit comme vice-président, soit comme élu, et moi je siège à l'aglo depuis 12 ans maintenant, donc vous voyez. Non, l'idée globale de pouvoir favoriser les mobilités douces, c'est quelque chose qui commence à être admis par quasiment tous les candidats. On est plutôt d'accord.
Je vous confirme.
Le
déploiement des pistes cyclables, d'un meilleur réseau urbain, de bus, de transport collectif.
Ceinture verte pour pouvoir mieux rouler propre. Enfin bref, donc ça c'est plutôt admis. Après, il y a des mesures spécifiques que je prends au niveau du Blésois qui concernent plutôt les personnes plus âgées. Pour moi, à partir de 70 ans, Alors, me demandez pas pourquoi 70 et pas 69, s'il vous plaît. J'ai eu droit.
On n'ira pas là.
Voilà, mais voilà, 70 ans, on offre les colis de Noël. 70 ans, on a pris sa retraite depuis 2-3 ans, voire pour certains un peu plus. Mais l'idée, c'est de dire, OK, on rentre dans une période où on a payé toute sa vie et où on commence à avoir en plus physiquement quelques difficultés et on ne va pas continuer à payer ou prendre sa voiture alors qu'on aurait la possibilité gratuitement de pouvoir prendre le bus, donc pour moi c'est vraiment une gratuité, et le stationnement pareil, c'est un âge où on va pas aller en plus au parc mettre etc, et en plus souvent heureusement, ce sont des personnes qui consomment, et pour moi l'intergénérationnel est très important. J'ai horreur d'une société, et c'est ma société, où on parque nos anciens dès qu'ils arrivent à un certain âge avec peu de mobilité, dans un endroit, maison de retraite ou maison pour...
résidence autonome.
Voilà, ou résidence, etc. Et on se dit, bon bah ok, eux, ils ne servent plus à grand-chose au niveau de la société, donc on peut les mettre dans un petit coin. Ça, c'est pas possible pour moi. Et ce brassage des générations, pour moi, c'est ce qui fait la richesse d'une société. Et donc l'idée globale, pour moi, c'est de favoriser justement leur facilité à vivre dans la cité, entre guillemets, donc à aller se promener. Dans le programme pour nous, on est les premiers à l'avoir mis, mais j'ai vu que ça avait été repris après. J'ai sorti mon programme au 1er novembre au niveau des en ligne. Donc l'idée, c'est de mettre en place une maison de santé pluridisciplinaire, donc avec tout type de disciplines de santé publique. Hein. Mmh. Moi, je ne suis pas du tout fermé. Je trouve qu'il y a des disciplines qu'on met de côté alors qu'elles ont toute leur place aujourd'hui dans le secteur de la santé. Au niveau du cœur de ville, sur l'espace Carré Saint-Vincent, où le maire actuel préfère mettre une maison pour le conseil régional, pour moi, c'est pas d'actualité. L'idée, ça sera vraiment d'avoir une maison de santé et de pouvoir favoriser donc l'accès aux soins à des personnes plus âgées également et le fait qu'ils puissent se balader tranquillement dans le parc qui sera à côté, mais aussi au niveau du cœur de ville pour consommer s'ils le souhaitent ou simplement pour être avec monsieur tout le monde. Donc ce sujet est aussi évidemment un sujet aglo avec d'autres mesures de transport qui sont prises au niveau de l'aglo qu'il faut affiner parce qu'on se retrouve parfois avec des bus vides ou dans les mauvais horaires ou dans etc. Donc il y a tout ce travail-là à faire, je pense aussi, pour essayer d'être le plus possible au service des habitants. Quoi.
Ça fait déjà une demi-heure qu'on échange donc sur vos propositions. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land
Then don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Vous êtes toujours sur Studio ZEF pour cette émission consacrée donc à l'entretien avec l'un des candidats à la mairie de Blois, Gildas Vieira. Je suis avec Thomas Miasso, donc de l'association d'accompagnement aux soins psychiques, la TESI. On revient donc sur les questions qui nous importent aujourd'hui, notamment l'action culturelle. C'est une ville, on en parlait pendant la pause musicale, au tissu associatif et culturel assez riche. Il y a des événements majeurs qu'on peut nommer au niveau national, type BD Boom, ouais, ou les rendez-vous de l'histoire. J'en passe aussi, hein, plus localement, mais la Guinguette est je crois un succès aussi à l'ouverture de l'été. Pour vous, est-ce qu'il y a des au-delà de certains succès que vous pourrez, dont d'autres que vous pourrez nommer, est-ce qu'il y a des échecs ou des choses qu'il faudrait revoir sur une politique culturelle ici à Blois?
Dans mon programme, il y a un événement qui existait dans les quartiers nord, que certains ont connu, qui était le Ramdam. Mm-hmm. Moi, je le remets en place, pas en 2026, mais dès 2027, en fait. L'idée d'avoir un grand festival culturel, musical, mais aussi avec plein d'événements de culture ou de musique urbaine, voire même... lié à la diversité de notre ville m'intéresse, avec des grands noms qui viendraient donc sur Blois. Donc ça me paraît quand même pas mal, ça c'est une première chose. Au niveau de ce qui existe déjà, moi je vois bien, je le dis comme ça, mais après ça se creuse, hein, je l'ai pas mis comme ça dans mon programme, mais de pouvoir prolonger certains événements. Une guinguette à Blois qui dure si peu de temps, je trouve ça dommage. Mmh. Quand on va à Tours ou ailleurs, ou même dans des villes plus petites, les guinguettes sont un peu plus longues l'été.
Elles s'étirent sur tout l'été, sur 6 semaines.
Et ça fait des recettes aussi pour les assos qui pilotent ça derrière. Donc je trouve ça dommage de ne pas le faire plus longuement. Mmh. Tout comme lorsqu'on a 3 jours sur les rendez-vous de l'histoire, à l'intérieur des rendez-vous de l'histoire ou de BD Boom, moi je verrais bien un mois carrément de festival culturel.
Ah oui, entre les rendez-vous de l'histoire qui est mi-octobre, c'est ça, et puis BD Boom qui est fin novembre.
Voilà. Mmh. Okay. Je me dis qu'il y a quelque chose
à remplir cette case là, cette saison là. Ok.
Il y a, avec y a quelque culturels. Chose à faire au milieu, avec pas mal d'événements qui permettraient aussi de pouvoir nourrir le tourisme blésois, et puis la ville de Blois qui est en train de mourir, faut le dire aussi. Hein, faut être quand même assez clair quand on voit l'état de notre cœur de ville et la pauvreté, malheureusement, avec des baisses de financement, la pauvreté de certains événements ou de certaines assos. On se dit que pendant un mois, on pourrait véritablement, et ça peut apporter pas mal de recettes à la ville de Blois, en fait. Donc le mois de la culture, pour moi, ça a du sens et ça se creuse. Et l'idée pour moi, c'est véritablement de le creuser avec les différents acteurs du Blésois, que ce soit les acteurs du logement, entre guillemets, les hôtels et autres, les acteurs du cœur de ville ou pas que de cœur de ville, parce que ça peut s'étendre au niveau des commerces, les acteurs donc associatifs du champ de la culture. On pourra avoir une vraie réflexion sur comment on pourrait mettre en place quelque chose et attirer du monde un peu partout, en France, à Blois, pour pouvoir, en France et même à l'international pour le coup, sur cette période-là où on aura un maximum d'événements qu'on a déjà en boîte, finalement, on va rien réinventer, juste le mettre en évidence sur cette période-là. Vous savez, pour nous qui sommes dans la santé, on connaît le mois sans tabac. C'est un mois où on densifie pas mal de choses et où il y a plein de choses qui se passent. Un mois de la culture sur une ville qui est quand même connue au niveau culturel, je trouve que ça aurait du sens.
Augmenter d'éventuels coûts, ça a un coût. Alors, ça me permet de glisser. Alors, vous répondrez à deux questions en même temps, oui. Je me permets. Pour vous, la culture doit-elle être rentable, oui ou non? Et si non, comment? Si oui, pourquoi?
Pour moi, la réponse, elle est simple. La culture ne doit pas être rentable, mais la culture peut permettre de pouvoir attirer pas mal de personnes, de recettes, de vie sociale, et donc finalement être rentable pour la ville, indirectement.
C'est un investissement
indirect. C'est un vrai investissement. Parce que quand vous travaillez sur la culture, je vous ai cité un festival comme Ramdam, on a l'impression qu'on va attirer de grands noms, mais derrière, en termes de recettes pour la ville, en général, la ville fait presque du profit. Elle fait du profit sur ces temps-là, parce que vous faites marcher l'ensemble de vos commerces, les lieux de logement, les lieux de restauration, les lieux de etc., etc. Et en termes d'assiette fiscale globale, vous l'augmentez, en fait. Vous faites venir du monde dans votre ville. Et en termes d'image, globalement, vous y gagnez. Et en termes de bien-vivre et de bien-être des personnes, en termes de brassage de population, c'est juste énorme. Donc oui, je trouve que c'est un gain pour moi, la culture dans ce prisme-là.
Après, là, c'est vrai qu'on est, dans ce que vous dites, c'est quand même quelque chose de même si c'est allongé un temps déjà très court, ça reste un peu ponctuel et je sais que nous, on a un peu cette idée-là de la continuité. Pour des personnes qui vivent là toute l'année et du coup des périodes de creux, je pense à la fin de l'hiver là qui est toujours une période un peu difficile, je pense à l'été qui peut être une période aussi un peu particulière où il y a beaucoup de tourisme mais du coup on peut pas forcément partir en vacances. Pour ceux qui sont là toute l'année finalement, est-ce que ça a vraiment un intérêt d'avoir des événements plutôt touristiques?
Je vais vous dire pourquoi. En fait quand vous avez un événement de 3 jours comme les rendez-vous de l'histoire. Quand vous avez quelques jours des rendez-vous de l'histoire, vous avez toujours derrière ce fameux creux, mais vous avez aussi une reconnaissance et une continuité pour les personnes. Quand vous êtes sur des événements d'un mois que vous multipliez après avec d'autres qui existent, vous créez une continuité par rapport à ça. Et les gens viennent visiter votre ville parce que lorsque vous faites ces événements-là, vous mettez aussi en exergue le local. Ça veut dire que je fais... je dis n'importe quoi, le BD Boom. Derrière, vous savez qu'il y a la maison de la BD qui va faire beaucoup plus de recettes durant une période plus large. En promotion de la santé, excusez-moi, je ramène à la santé.
Il n'y a pas de souci, allez-y.
C'est mon champ. L'idée de la promotion de la santé, précisément, c'est de ne pas faire juste du soin. Je pense que pour la partie psychologique ou psychiatrique, c'est la même chose. C'est quid de qu'est-ce que vous faites après pour pouvoir faire en sorte que les personnes soient actrices de leur santé et l'améliorent. Ça ne peut pas être du one-shot. Par contre, le one-shot permet de pouvoir, on se posait la question d'identifier les lieux, d'identifier les acteurs, de pouvoir, etc. Ces événements majeurs, en plus qui s'étaleraient sur un mois, sur le temps, permettent précisément de pouvoir identifier un petit peu tout ça et de permettre aux gens de revenir. Quelqu'un qui vient à Blois aujourd'hui se dit « Tiens, c'est super, à Blois, il y a le château et la maison de la magie. » Super, on connaît. Mais à Blois, il n'y a pas que le château et la maison de la magie. Venez vous installer, entre guillemets, à Blois pendant 5-6 jours. Prenez votre semaine. Venez passer une semaine à Blois et vous allez voir que Blois a une richesse en termes de culture que vous n'imaginiez pas. Et quand vous reviendrez, et si vous avez envie de revenir au cours de l'année, vous saurez qu'il y a ces lieux-là qui vivent et qui existent tout au long de l'année. Je pense que c'est ce qui manque, à mon avis, à Blois, c'est ce fameux continuum, comme vous le dites, qui peuvent être ciblés sur des événements majeurs, mais qui sont assez en longueur pour pouvoir identifier toute cette richesse et qui perdure après, derrière, parce qu'il y a un monde associatif qui le fait perdurer en plus.
Je me propose, vous avez tout à fait répondu à la question, je me propose quand même de compléter, de prolonger la réflexion de Thomas, notamment pour l'été, pour des publics, notamment des jeunes, qui ne partiraient pas en vacances, faute de moyens des familles. Quelle politique sociale, ça me permet de glisser sur ce grand terme aussi, quelle politique sociale seriez-vous capable de mettre en place sur l'accompagnement des personnes et des populations précaires à Blois?
Faut le dynamiser. Il y a des choses qui existent. Faut juste le rendre tout ça plus dynamique et plus connu.
Alors par quoi, comment
Moi, je sais que aujourd'hui, alors pour parler de jeunes, alors il n'y a pas que les quartiers nord. Attention.
Bien sûr.
On va m'enfermer dans la case quartier nord. On a des studios qui existent pour pouvoir permettre à des jeunes de pouvoir faire de la musique. Je pense à Pôle Nord parce que j'ai vécu la période Pôle Nord Fast avec certains noms de la musique qui sont sortis,
qui sont sortis,
qui ont pu émerger. Il y a pas mal de sur le délire d'été. Il y a pas mal d'événements qui sont séquencés au niveau de notre cœur de ville. Et dans notre programme, on va avoir une personne véritablement dédiée à la dynamisation en termes d'animation du cœur de ville. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait tout au long de l'été de l'animation. En cœur de ville notamment, pas que au niveau de la ville, mais surtout en cœur de ville. Le pied du château, par exemple, n'est pas exploré à sa juste mesure. C'est-à-dire que quand on a des touristes qui viennent tout l'été, qu'est-ce qu'on leur propose à part se promener dans un espace quasi vide, sinon une journée ou deux où on met un peu une petite scène. Pour moi, l'idée d'avoir une vraie scène et de pouvoir aménager cette partie-là, et de permettre à tous ces jeunes, pour faire le lien avec Pôle Nord, c'est pour ça que j'en parlais, qui œuvrent toute l'année dans cet espace et dans d'autres, je le souhaite aussi, hein, il y en a également quartier Est, et qui pourraient venir sur ce lieu-là tout l'été pour pouvoir rendre un peu dynamique, explorer leur première scène, permettre à des touristes de s'égayer également. Pour moi, ça aurait du sens. Donc, c'est vrai qu'au niveau... Alors, la culture, c'est pas que la musique. Hein, là, je suis dans le prisme de la musique, évidemment. Mais après, on a pas mal d'atouts également, que ce soit au niveau du cœur de ville que d'autres. Moi, j'ai souhaité, si je suis élu, ouvrir le château à l'aile, au niveau de son aile Gaston d'Orléans, vers le Jardin des Lys. Pourquoi je le souhaite? Et je remettrai une bibliothèque. Avoir une bibliothèque au cœur du château, libre d'accès, pour moi, c'est essentiel. Je l'ai vécu étant jeune, et pouvoir traverser le château pour aller de l'autre côté et mieux aménager le Jardin des Lys, c'est central. Ça existait il y a très très longtemps. Bah, Blois mérite ça, cette ouverture vers l'ensemble des quartiers, et de rendre justement cet accès au château plus dynamique, et ce lieu entre le château et la Maison de la Magie beaucoup plus vivant, avec une possibilité aussi de pouvoir aller vers le château avec un accès soit ascenseur, soit escalator, mais quelque chose qui permette à des anciens de ne pas peiner pour pouvoir y arriver. Pour moi, tout ça, c'est du bon sens, en fait. Et c'est du bon sens qui ne coûte pas extrêmement cher et qui peut permettre de pouvoir rendre plus dynamique la vie de la cité, notamment l'été. Hein, c'était précisément ça la question, mais toute l'année, finalement.
Et alors, j'appuie un peu en termes de politique sociale. Donc, on a bien compris la mise en place d'activités, une extension, on va dire, dans le cadre de délire d'été, par exemple. On a bien compris ce que vous vouliez dire là-dessus. Est-ce qu'il est envisageable pour les populations précaires de bénéficier d'une offre de loisirs, on va dire, peut-être extérieur à la ville? Je pense à des centres de loisirs, des colonies de vacances, etc. Est-ce que ce genre de choses est envisageable ou envisagé?
Envisager, j'ai pas envie de vous dire oui pour vous dire oui, vous ne le trouverez pas dans mon programme. Par contre, moi j'aime bien le bon sens. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée, disait Descartes, mais dans la réalité, elle n'est pas du tout partagée. Le bon sens, c'est quand même, comme je l'ai vécu à une autre époque, aujourd'hui, monsieur Lang est un peu décrié, donc je ne vais pas aller sur ce champ-là, mais il était maire de Blois, il a fait beaucoup au niveau de la culture, et par rapport à la partie culturelle, moi-même, j'ai pu aller en vacances gratuitement, grâce justement à des projets jeunes qu'on pouvait mettre en place et qui nous permettaient, avec des éducateurs, de pouvoir connaître nos premières vacances en bord de mer ou à la montagne. Donc ça a du sens également, ça nous faisait sortir du Blaisois et ça nous permettait simplement de pouvoir connaître autre chose et puis de développer aussi notre esprit au-delà du Blaisois. Pour moi, ça, c'est du bon sens. Ça ne va pas se faire par une gratuité généralisée, parce qu'il va falloir cadrer un petit peu tout ça, mais sur des appels à projets aux volontaires de jeunes qui ont envie de travailler sur ce type de projet favorisé par la ville, évidemment qu'il faudra favoriser ce genre d'accès.
Comment parce que l'accès, c'est aussi, c'est pas que savoir que ça existe, mais comment on accompagne ces jeunes-là à monter des projets, comment, en fait, moi, c'est la question de la participation de ces publics-là, comment,
très
en
importante.
Fait, ils ont une, quelle est leur place dans tous ces choix culturels, et comment on fait aussi une programmation culturelle qui leur ressemble, et dans laquelle ils sont pas juste consommateurs ou juste consultés, mais dans lequel ils ont une réelle action, et peut-être que c'est aussi ça qui fait qui favorise l'accès, c'est d'avoir réellement envie, parce que ça vient de nous.
Exactement. Ça, je le partage complètement. Hein. Je suis vraiment pour la participation, c'est ce que je vous disais un petit peu en off. Je suis d'ailleurs le seul candidat qui veut mettre en place chaque année un référendum citoyen pour que les personnes puissent être écoutées. Derrière notre programme, il y a des personnes, et donc l'idée, c'est pas de dire, tiens, regardez un programme de 28 pages, en plus en A2 ou en A3, bref.
En petit format.
En petit format, en A5, pardon. Et donc de dire, pendant 6 ans, voilà ce dont vous allez avoir droit. Non, je pense que les personnes ont leur mot à dire. Par contre, il y a des choses qui existent vraiment. Donc c'est vrai que c'est pas toujours connu, mais aujourd'hui, vous avez les conseils citoyens qui permettent, et des conseils jeunes qui permettent à des jeunes de pouvoir discuter. Vous avez la possibilité, au niveau de la place Coty, il y a un service qui permet de pouvoir travailler sur la politique de la ville, donc à des jeunes et moins jeunes de pouvoir apporter des projets, et que ces projets sont étudiés par la ville et par l'État. Il y a un service jeune qui existe. Moi, je souhaite que ce service puisse, comme je l'ai connu à l'époque, parce que finalement, on vit de son expérience, que ce service jeune ne soit pas un service dans les murs, mais aussi hors des murs, parce qu'il y a des jeunes qui ne franchissent pas certaines portes, et il faut aller les chercher, quoi. Et donc ça me tient à cœur aussi de dire, il y a ces services, mais comment est-ce qu'on s'en empare quand on est jeune ou moins jeune, et jusqu'à quel âge on est jeune, ça pose question aussi, pour aller proposer des projets, discuter de certains projets, et puis faire valoir un petit peu le point de vue de la jeunesse blésoise, quoi.
On arrive déjà sur la dernière partie de l'émission. Je me permets de vous poser quelques questions en vrac qui ont pu être posées à d'autres candidats au gré des conversations. Je reviens sur BD Boom, sur un aspect plus pragmatique. La question agite beaucoup l'association BD Boom. Vous serez amené à présenter un projet pour celles et ceux qui écoutent l'émission mais qui ne pourraient pas se rendre à cette réunion publique qui va avoir lieu très bientôt. Quel est votre positionnement par rapport à la situation de BD Boom, à la localisation physique de BD Boom?
Oui, alors moi, je souhaite pas en faire un sujet polémique, parce que que ce soit moi ou les autres candidats, parce qu'on est plusieurs à avoir la même idée finalement, et je trouve que on en fait une petite polémique politicienne presque. L'idée pour nous, c'est de pouvoir dire, à l'endroit où est BD Boom, il y a eu, à une période, une halle maraîchère. Et c'était fantastique pour tous les Blésois qui l'ont connu, et ça permettait de dynamiser notre centre-ville, en tout cas cette partie-là, quasi tous les jours, parce qu'il y avait une vie à un endroit tous les jours qui est consultée, enfin les gens y allaient, quoi.
Et d'autant plus du commerce de bouche en centre-ville.
Voilà. Mmh. Et ça devient indispensable aujourd'hui quand on voit notre cœur de ville en train de mourir. Bon, la question de la localisation, personne n'a dit qu'on voulait faire disparaître la maison de la BD. Personne n'a dit que c'était pas utile, personne n'a critiqué, mais derrière ça, moi je vous le dis crûment, on sait que le président de BD Boom est pour le maire de Blois. C'est un de ses soutiens, et c'est su, connu partout. Et donc voilà, il fait sa polémique, et on a l'impression qu'on est contre la culture, ou qu'on est, etc. Et le maire s'en empare aussi, forcément, on est en période électorale, pour faire son buzz et nous faire passer pour des gens qui n'aimeraient pas la peau. Enfin bref.
Vous avez le loisir de vous défendre
Oui, je me défends, c'est moi. je dis les choses, en tout cas. Je veux dire, il ne faut pas non plus prendre les Blésois pour des imbéciles, je pense qu'ils ont tous compris. Voilà, quoi. Donc, oui, non, l'idée pour nous, c'est clair, hein, c'est de dire, La maison de la BD, c'est utile. D'ailleurs, j'en ai parlé lorsque je parle de culture. C'est utile aujourd'hui, c'est reconnu aujourd'hui sur le Blaisois et bien au-delà.
Et bien au-delà
Donc, on va pas le faire disparaître. Heureusement, on serait stupide. Par contre, lui donner une place dans un autre endroit, pas loin du cœur de ville. Donc, on pense évidemment en premier lieu à l'Hôtel Dieu, mais ça peut être un autre endroit aussi. Discuter avec eux, je veux dire, c'est pas le sujet. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça. Lorsqu'on a eu à reloger le musée de la Résistance, c'était pour avoir un endroit encore plus intéressant pour eux. Donc c'est cette discussion-là qu'on peut ouvrir et avoir. Mais ouvrir une discussion d'emblée en se disant « Bon, bah, écoutez, on va convoquer tous les candidats à un débat en sous-entendant que parce qu'il y a des gens qui seraient contre la culture à Blois, bah, si quelqu'un est contre la culture à Blois parmi les candidats, bah, je suis triste pour eux parce que Blois est une ville culturelle. Donc il faut qui change de ville pour se présenter, pour le coup.
Sur un autre lieu de ouais. culture qui a agité le dernier mandat, le mandat qui se termine, le projet de nouveau théâtre, comment vous situez-vous par rapport à
ce projet ? Moi, pareil, c'est clair aussi. Je le mets en stand-by. Pourquoi ? Parce que je pense que les Blaisois, aujourd'hui, en termes de priorité, n'ont pas 6 millions à dépenser dans un théâtre. Et qu'il y a des choses beaucoup plus utiles. Je vous ai parlé de la maison de santé pluridisciplinaire en cœur de ville. On parle d'une foncière et de plein de logements possiblement à réhabiliter en cœur de ville et de loyers qu'il faut mettre moins cher pour sauver notre cœur de ville. Moi, je ne serais pas le maire des grands travaux ou des grandes choses à réhabiliter, à refaire, des théâtres, des piscines. Tout ça, c'est très utile, hein, ou des jeux de paume. Tout ça, c'est très utile, mais on les a. Pour moi, là, le grain, c'est bien suffisant. Maintenant, il y a plein de structures qui sont en train de mourir. L'ADA Basket, l'Omnisport, est en train de disparaître. Il y a Monsieur Labbé qui est en train de fermer. Il y a Bouchara qui est en train de partir. On a des routes qui sont dans un état déplorable partout à Blois. Mais il faut qu'on s'en occupe, mon sang. Donc, à un moment donné, cet argent-là, on a une capacité d'investissement qui est super amoindri. Je suis au conseil municipal depuis 12 ans, donc je vous le dis. Donc le peu d'investissement qui nous reste, on va le mettre dans un théâtre, alors qu'on a le théâtre Bloisvienne qui est en train de fermer également. Faut qu'on arrête, quoi. Faut arrêter de marcher sur la tête. Donc pour moi, on le met en stand-by. C'est pas une priorité. Ça veut pas dire qu'on n'en veut pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, financièrement, il y a peut-être autre part où investir.
Dernière question en ce qui me concerne, et puis Thomas, si tu en as ouais. d'autres, tu auras le loisir pour conclure. Je voulais revenir sur cette grande thématique de la culture avec une question qui a été posée à l'intégralité des candidats. Vous n'êtes pas sans savoir que malgré le fait qu'elle soit défendue ouvertement au niveau de l'État, je ne parle pas juste ici, vous l'avez défendu pendant une heure, la culture, il n'est pas sans savoir que certaines subventions peuvent être attribuées puis retirées suite à des programmations dans des festivals, etc. Quel est votre positionnement par rapport à des subventions allouées dans des programmations culturelles qui prôneraient des valeurs qui n'iraient pas dans le sens d'une municipalité. Est-ce qu'il y aurait une censure ? Est-ce qu'il y aurait un droit de regard sur des subventions allouées à des structures culturelles qui ne satisferaient pas le pouvoir municipal ?
Déjà, lorsqu'on attribue des financements, je trouve qu'il faut tracer les financements. On n'attribue pas des financements à n'importe qui, n'importe comment non plus. Mm-hmm. Si aujourd'hui, on attribue des subventions à BD Boom, pour citer BD Boom,
ouais.
ou la maison de la BD, pardon, c'est parce qu'on en connaît une utilité, une ligne directrice. On vit dans des sociétés qui sont de plus en plus sensibles. On a la guerre un peu partout. On a l'impression que tout le monde est sous tension, que même les populations, quelles que soient les origines qu'on a, on se bagarre en France parce que on accueille trop d'étrangers ou que telle population d'origine. On a des extrêmes qui montent en France, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Si on veut les appeler extrêmes, d'autres ne les appellent pas extrêmes, donc tant mieux, pas de souci. Mais on voit bien qu'on est dans une société qui est de plus en plus clivante. Lorsque vous êtes dans une société qui est de plus en plus clivant et que vous voulez travailler pour la culture et pour l'éducation de nos enfants sans rentrer dans des extrémismes, il faut faire très attention. Donc pour moi, c'est pas en aval qu'il faut retirer, c'est le contrôle qu'on a que nos enfants ne vivent pas dans une société qui rentre dans un extrémisme qui ne leur permet plus de se développer correctement. Et pour moi, c'est pas une question de censure, c'est une question de vigilance, en fait, de tout un chacun. Pour parler un peu simplement, aujourd'hui, on crie sur la culture, mais aussi sur l'éducation. La première éducation, c'est quand même la famille. Et quelle est l'attention que nous portons sur... En tant qu'institution, plus largement, hein. Je fais un petit pas de côté, hein. Certains peuvent me trouver un peu loufoque pour le coup, mais pour moi c'est précieux. Quelle est l'attention qu'on apporte aux familles qui sont de plus en plus en difficulté, monoparentales, recomposées, très pauvres, etc. pour beaucoup. Comment est-ce que la société et les municipalités sont aussi garants, parce qu'ils peuvent l'être garants, avec l'éducation nationale, d'une certaine éducation qui ne soit pas déviant, et de qui fait l'éducation dans notre société. Voilà, on a tout dans tout. On permet à nos enfants d'avoir leur portable dès le plus jeune âge, et c'est juste plus possible aujourd'hui quand on voit tout ce qu'on peut avoir accès au niveau de nos portables. Enfin, c'est cette limite-là, pour moi, dans cette société, qu'il faut qu'on arrive progressivement à mettre également pour le bon développement de chacun et de nos enfants. Il y a une vraie vigilance à avoir, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde où tout est permis et où, malheureusement, on est en train de créer des enfants de demain qui ne seraient peut-être pas dans un état, on parlait de psychologique ou de psychique, le plus stable possible. Et tous ces outils-là ne doivent pas être contrôlés. On n'est pas en France dans une société de contrôle. On est dans une société où on doit pouvoir avoir un regard averti sur certaines choses et ne pas tout financer non plus. Pour le coup. Excusez-moi, j'ai fait une longue réponse.
C'est pour ça que j'ai essayé. Mais
j'ai fait mon pas de côté.
Et donc, quels seraient les pouvoirs d'une municipalité pour ce genre de choses, l'accompagnement, la protection des enfants par rapport au téléphone portable, comme vous citiez, ce genre de choses. Est-ce que la mairie pourrait avoir un
pouvoir
quelconque ?
La mairie a un pouvoir. Vous voyez, là, j'entendais, il y a un mea culpa de l'ancien maire. Enfin, l'ancien, il y a encore un peu un maire adjoint à l'éducation. Il fait son mea culpa par rapport aux tablettes qu'il avait mis en libre accès à nos jeunes à l'école. Faire son mea culpa, c'est aussi simplement dire que la municipalité s'est plantée. Et quand la municipalité se plante, elle doit à un moment donné réfléchir à ses erreurs et se dire que voilà pourquoi je me suis planté, parce que les enfants de demain ne peuvent pas travailler dans ces conditions-là. Donc sur ce sujet-là, la municipalité a le pouvoir de dire je ne souhaite pas qu'on puisse distribuer des tablettes dans les écoles parce que c'est dommageable. Mais il faut le faire en amont, tout ça, c'est pas après. La réflexion, elle se fait jamais après, elle doit se faire en amont.
Thomas, est-ce que tu as une dernière question, une dernière réflexion à proposer? Puis on laissera Gildas conclure, hein, il y aura un mot de fin.
C'est un sujet sensible, parce que là, moi quand même, ce que je me demande, c'est... alors oui, j'entends qu'il y a des choses à ne pas diffuser, mais notamment parce que c'est pas tout à fait légal, ou des choses qui sont scientifiquement sourcées et qu'il faut du coup appuyer parce qu'en fait c'est pas très sain dans le cadre dont on parlait là. Mais par contre, sur la question de ce qui doit être financé, la subvention, c'est pas une délégation de service public, et du coup la subvention, c'est aussi un contrat de confiance avec la personne qu'on subventionne, et que notamment dans l'éducation populaire, qui a un rôle d'éducation et un rôle d'éducation critique par rapport aux institutions, il y a une nécessité de liberté et de libre décision sur la manière dont on va gérer ses finances et sur quoi on va axer un peu sa politique. Et donc c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose de complexe. Comment vous envisagez cette subtilité de oui, on va donner une subvention à quelqu'un, mais on va pas pouvoir contrôler tout ce qui est fait, on va pas pouvoir revenir sur une décision parce que la confiance aurait été rompue. Sinon, c'est plus de la subvention, c'est de la délégation de service public.
Le contrat de confiance avec les associations. Pour conclure, Gilles Dasbia.
Le contrat de confiance, je sors hier d'un dialogue de gestion au niveau professionnel avec l'agence régionale de santé, qui m'a demandé tout un tas de documents et de justifications sur la convention, ce qu'on en a fait, comment, etc. etc. En fait, on rend compte de l'argent public, mais j'entends bien qu'on ne peut pas tout contrôler, et tant mieux. Par contre, on sait avec qui on travaille. Ça, j'en suis persuadé. Lorsqu'on finance telle et telle structure, on sait pourquoi on l'a financée en général, même si c'est pas une délégation de service public, on connaît son objectif, ses grandes lignes, etc. etc. Donc, on le fait en général en confiance. Quelle que soit l'orientation que ça prend, on sait en général que tel asso travaille pour tel axe, sur tel axe, et que tel axe sert à tel public. Après, il peut y avoir certaines orientations, mais voilà, après, ça peut se discuter, et ça doit se discuter. Mais lorsqu'on sait qu'une association est plutôt... Dans certaines déviances ou est plutôt extrême, ou que ce qu'elle fait peut porter atteinte à bah, peut-être qu'on non pas qu'on lui retire de l'argent, mais qu'on lui en donne pas, ou que la fois d'après, on se dit bah, écoutez, il y a quand même 5 enfants qui sont allés en psychiatrie à cause de vous. J'exagère.
Oui.
C'est juste pour embêter Thomas. Et donc,
je vois bien la caricature, voilà, pour marquer le point.
Voilà. Et donc, non, quoi, la fois d'après, on va pas vous enlever l'argent, vous l'avez utilisé en général. Ou une grande partie. Enfin, donc, plutôt, par contre, la fois d'après, on va éviter d'y aller. Moi, c'est juste ça. Après, la liberté, évidemment, de faire. Heureusement, j'ai d'ailleurs plaidé pour ça hier dans mon dialogue de gestion. Il faut une certaine liberté
d'entreprise ou de création.
C'est évident. Sinon, ça devient très compliqué.
Peut-être un peu de pluralité aussi dans les pratiques. Notamment en termes de soins psychiques, je reviens toujours là-dessus, mais... Ouais. Faut trouver l'endroit qui nous correspond, et en termes d'éducation et en termes de culture, il faut trouver chaussure à son pied. Enfin voilà, on n'aime pas tous toutes les musiques, on n'aime pas tous toutes les pièces de théâtre, on ne lit pas tous de la BD, et du coup il faut de la pluralité. Enfin, il y a quand même une nécessité à permettre ça, quoi.
Non, complètement. Là, on partage à 300%.
Un dernier mot, si vous le souhaitez, ouais. Gildas, et il faudra conclure.
Déjà vous remercier pour ce temps d'une belle richesse, finalement. C'était une discussion simple, hein. Je crois que ça se voit sur le ton de ma voix. Je suis pas en débat, je suis plutôt en discussion.
C'est pas ce que nous avons cherché avec ces cinq émissions.
Et je trouve ça plutôt riche. Ça permet aussi de se découvrir de manière entière, parce que j'ai souvent tendance à penser, et c'est souvent vrai, lorsque je suis en entretien d'évaluation, que lorsque vous entendez une personne pendant plus d'une demi-heure, à un moment donné, la personne ne peut plus tricher, elle est elle-même. Et donc, politiquement, je n'ai pas encore le niveau des Mélenchon, Sarkozy et compagnie. Donc, eux peuvent tricher pendant 3 heures. Moi, je ne peux pas. Donc, je suis plutôt entier. J'espère avoir dit des choses convaincante ou pas pour ceux qui m'entourent, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on puisse me connaître comme je suis, et saluer le travail que vous faites, hein, parce que sur le terrain, il y en a qui le mesurent pas forcément. C'est l'occasion aussi pour moi de le dire. Moi, je suis un enfant, enfin, je suis plus un enfant, mais j'ai été un enfant qui a su être, qui a, dans son parcours, est devenu ce qu'il est grâce au Restaurant du Cœur, à la Croix-Rouge, au Secours Populaire, et à d'autres assos également, et sportives notamment, qui m'ont permis également de connaître d'autres valeurs à travers le bus, la JB, pour ceux qui ont connu, et autres. Et aujourd'hui, c'est ce qui concourt un peu à ma culture, à mon éducation, et au fait que j'ai pu m'en sortir également, et être ce que je suis. Donc les valeurs que porte l'éducation populaire, les valeurs de la culture et de l'association, bah, c'est une richesse en France qu'il faut conserver. Et je trouve dommage aujourd'hui de vivre dans un temps où on pense plutôt réduction des associations, réduction des crédits, plus que construction de chacun de nous, parce qu'on a une identité qui est construite grâce à tout ce prisme-là.
Merci beaucoup Gilles Dazira, ouais. Vous êtes la tête de liste de Ozon Blois Autrement. Les élections municipales se déroulent le 15 et le 22 mars. L'intégralité des interviews et des conversations que nous avons pu enregistrer avec les autres candidats sont à retrouver sur le site de Studio Zef à la page de la Lorgnette. Merci beaucoup Thomas de l'association La Tessie d'avoir participé à cet échange. À très bientôt sur Studio Zef. Merci à tous et à toutes.
Merci.